On continue notre petite étude sur l'épître aux Éphésiens. On a commencé ça à la dernière réunion à propos, on a fait l'introduction. Aujourd'hui, on commence en regardant les chapitres. On va y aller tranquillement en regardant chaque verset. On va aller essayer de sortir ce que l'apôtre Paul a voulu nous communiquer dans cette épître-là. C'est une super belle une belle étude qui est là-dedans, que l'apôtre Paul a envoyé aux églises, mais apporte le titre, on va le comprendre tantôt pourquoi que je dis cela, apporte le titre de Épître aux Éphésiens. C'est une église à l'église d'Éphèse. Dans le premier verset, l'apôtre Paul nous fait ses présentations puis sa salutation. Dans le chapitre 1, le verset 1, Paul y dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Voyez-vous, la première chose qu'on remarque dans ce que Paul y écrit dans cette lettre, c'est que c'est par la volonté du Seigneur qu'il avait reçu l'appel au ministère. Il nous dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » On comprend là-dedans comment est-ce que l'apôtre Paul, il reconnaissait que c'est par la volonté de Dieu qu'il était devenu un apôtre. Puis ça, c'est quand on médite cette idée-là, c'est pour nous arriver à comprendre que pour que quelqu'un soit dans le ministère, à travailler dans n'importe quel des ministères, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, ça commence déjà par un appel de Dieu. Il faut que la personne ait reçu l'appel de Dieu. Puis l'appel de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, puis qui nous le met comme conviction, qui nous attire, qui nous appelle à travailler dans un ministère quelconque. Il nous équipe de dons, on le reconnaît que les dons sont en nous, puis en plus, les autres le voient qu'on a ce don-là. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens qui sont appelés le savent qu'ils sont appelés. Puis souvent, Dieu donne des prophéties aussi pour confirmer, ou il fait faire des signes autour pour que les gens reconnaissent qu'il est vraiment appelé dans le ministère. Puis Paul, il s'est expliqué aussi dans une autre lettre, au début de la lettre aux Galatiens, l'épître aux Galates, comment Jésus l'a appelé à travailler pour lui. Parce que l'apôtre Paul, quand il persécutait l'Église du Seigneur, il s'en allait à Damas pour pouvoir mettre à mort puis enfermer dans les prisons des gens qui servaient le Seigneur. Il était un persécuteur des chrétiens. Puis sur son chemin, en s'en allant dans cette ville-là pour aller saisir les chrétiens, Jésus y a apparu, puis là, Jésus y a parlé. Puis là, Paul, il a raconté son témoignage trois fois dans le livre des Actes, puis apporte les explications qu'on retrouve aussi dans les Épîtres. Dans l'Épître de Galates, Paul y avait écrit, lui, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça dit que l'apôtre Paul, c'est pas par un homme qui a commencé son ministère. C'est pas des hommes qui l'ont appelé dans le ministère. C'est Dieu puis Jésus qui l'ont appelé dans le ministère. Fait que son ministère, il venait du Saint-Esprit. Il venait de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit, Paul, je t'appelle, puis tu vas aller vers les païens vers qui je t'envoie. Puis il était pour être équipé pour travailler dans le ministère. C'est pour ça que dans Éphésiens, il nous dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que Paul rentre dans son ministère. Puis, après ça, c'était évident pour tous que l'apôtre Paul était appelé par Dieu, parce qu'il s'est passé toutes sortes d'affaires dans sa vie pour le prouver. On le voit dans les Actes des apôtres par la suite, quand il était rendu prêt à rentrer dans son ministère, c'est quand il était dans l'église d'Antioche. Puis le Saint, pendant que les gens étaient en train de jeûner puis ils priaient dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a prophétisé puis a dit, mettez-moi à part. On voit ça dans Actes chapitre 13, le verset 2. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Fait que c'est vraiment l'appel de Dieu. contrairement souvent que dans, aujourd'hui, les gens, ils vont, sans nécessairement avoir reçu l'appel de Dieu, il y en a qui partent, puis ils vont étudier à l'école biblique, puis ils se font établir pasteur, ou ils prennent un ministère quelconque, puis ils n'ont pas toujours reçu l'appel de Dieu. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, être à l'écoute de Dieu, puis demander au Seigneur, « Hey Seigneur, c'est quoi mon appel? Dans quoi tu m'appelles? » Puis là, d'avancer dans ce que Dieu nous demande, afin qu'on soit sûr qu'on est au bon endroit dans notre vie chrétienne. On continue à regarder la lettre. On est encore dans Éphésiens, chapitre 1, verset 1, où ce que ça nous dit, que cette lettre-là a été adressée aux saints. La parole, le verset dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints. Ça veut dire que cette lettre-là est adressée à des saints. Lorsque Paul il envoie cette lettre-là aux saints, parce que c'est une lettre qui est envoyée pour communiquer un message aux saints, il parle pas des habitants des cieux, mais à des gens qui vivent sur la terre. Des gens qui sont appelés saints. Ça, nous, entre nous autres, on s'appelle pas souvent saints, mais on devrait s'appeler saints. Quand on se parle, Saint-Bernard, Sainte-Lyne, Sainte-Odette, on pourrait dire ça parce qu'on est des saints. Sainte-Marie-Chantal, on est des saints, on était appelés par Dieu et on était sanctifiés. Quand on parle du mot saint, Paul, il savait que les chrétiens, quand t'es né de nouveau, t'es devenu un saint. Faut comprendre ça parce que Paul, il va en reparler un peu plus loin dans sa lettre. Continue à développer cette idée-là qu'on est des saints. Des saints, ça veut dire qu'on est consacré à Dieu. On appartient à Dieu. Un saint, ça veut dire qu'on est des choses, un saint ou une chose très sainte ou consacrée. C'est toutes des synonymes. On appartient à Dieu. Dieu il est saint, puis on s'est donné à Dieu, il nous a rachetés pour qu'on lui appartienne. Maintenant, on est devenus des saints. En position, là, on est des saints. Puis la Bible dit que les saints, c'est les gens qui sont déclarés saints par le nom de Jésus-Christ puis par l'Esprit-Saint. Le fait qu'on est en Jésus, puis le fait qu'on a reçu l'Esprit-Saint, on est appelé saint. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, là, verset 11, ça nous dit... Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il dit, vous avez été sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire déclarés saints. Aux yeux de Dieu, on est des saints en position. Parce qu'on était sanctifiés, puis il y a deux choses qui nous rendent saints dans ce passage-là. Ça dit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on devient saint. Pourquoi? Parce que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, quand on l'invoque, on se repent, il nous pardonne nos péchés. Quand t'es pardonné, t'es purifié par le sang de Jésus. C'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé. Puis la Bible, elle dit, il nous sort des ténèbres, puis il nous amène dans le royaume de la lumière. On est maintenant des saints du royaume de Dieu. On fait partie des saints, on est des concitoyens des saints. Puis à cause du nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Parce que quand tu te convertis même en allant à Jésus, te pardonne, il te purifie, puis le Saint-Esprit rentre en toi. Il rentre en nous. Quand l'Esprit-Saint rentre en nous, notre être tout entier est devenu saint. C'est un peu la même image que quand que Moïse marchait, il était appelé par Dieu. Non, c'est Abraham qui était à sa montagne, puis que Dieu y a apparu dans un buisson, puis tout ça, puis le buisson brûlait, mais il se consumait pas. Puis là, Dieu lui a parlé, puis Dieu lui a dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Cette terre-là est sainte, pourquoi? Parce que la présence du Dieu saint était là. » Fait que quand que le Saint-Esprit, le Dieu saint, entre en nous, à notre conversion, bon, on est devenu des saints. Fait que il y a le nom de Jésus qui nous sanctifie, puis il y a l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Puis Paul, il a envoyé sa lettre aux saints. Ça veut dire qu'il a envoyé sa lettre à d'autres gens comme nous, des chrétiens, des gens sauvés, qui avaient été pardonnés de leurs péchés, puis avaient reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a rendus capables de devenir saints. Parce que à la base, là, on est tous des pécheurs. On est tous morts en Adam, premièrement, à cause d'Adam et Ève. On est venus au monde morts spirituellement, déconnectés d'avec Dieu. Puis on a grandi dans cet état-là. On a fait plein de péchés, puis on était incapables de devenir saints. Il a fallu qu'il nous rende capables de devenir saints. Puis ça nous dit... Il nous a, puis mais en plus de que par Jésus on devient saint, mais il nous a préparé un héritage dans la lumière avec les saints. C'est ça qui est super. Alors regardez bien dans Colossiens 1:12, ça nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Fait que maintenant, en Jésus... On est pardonné, le Saint-Esprit est entré dans nous, on est devenu des saints, puis en plus, on est devenu capable, à cause de Jésus puis du Saint-Esprit, de faire partie des saints qui vont être dans la lumière, puis en plus, de pouvoir hériter tout ce que Dieu veut nous donner dans la lumière. Mais qu'on arrive l'autre bord, on croira pas ça. On va être de la misère à comprendre, puis à voir la grandeur des bénédictions que Dieu va nous donner, parce qu'on lui appartient. On continue à lire la lettre, du premier verset encore, on veut méditer tous les détails dans quel lance-là pour partir. Il dit pas l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse. L'introduction de la lettre, c'est ça qu'on a, nous, dans notre Bible. Ça nous dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Mais il y a un détail important qu'on a besoin de comprendre tout en partant, c'est que les mots à Éphèse ne figurent pas dans tous les manuscrits. Il y a beaucoup d'anciens manuscrits originaux là, qui n'ont pas le mot à Éphèse dans la lettre. Puis ça veut dire que ça laisse penser que la lettre pouvait être lue dans d'autres églises en plus d'Éphèse. C'est pour ça que les théologiens pensent que c'était une lettre circulaire qui faisait le tour de plusieurs églises parce que dans beaucoup de manuscrits, le mot Éphèse, il était pas écrit. Fait que c'est une lettre envoyée, puis il y en a que c'était écrit dans la marge, le mot Éphèse, puis il y en a qui l'avaient écrit dans le haut parce qu'ils ont retrouvé des manuscrits que c'était écrit, mais pas toutes. Ça veut dire que beaucoup de théologiens pensent que cette lettre-là pouvait être envoyée à plusieurs églises. Fait qu'ils ont envoyé des lettres directes à Éphèse avec le titre à Éphèse, puis la même lettre est envoyée sans écrire à Éphèse, ça l'est envoyée à d'autres églises. Pour ça qu'on a un paquet de parchemins qui n'ont pas le mot à Éphèse dedans. Ça change pas grand-chose dans l'étude. Comme j'ai dit dans l'introduction, c'est que c'est pas Paul, il a pas parlé de beaucoup de choses de l'Église d'Éphèse. C'est comme s'il a parlé plus de points théologiques pour expliquer les choses spirituelles, toutes les bénédictions que le chrétien a en Jésus. Il parle plus de choses en général, puis c'est pas spécifique avec des points qui parleraient directement aux gens d'Éphèse. Mais tout ce qui est là-dedans, c'est des doctrines bibliques, puis très véridiques, puis très importantes, très bénissantes aussi. On voit que la lettre est envoyée aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est important aussi, ce détail-là, parce que pour que tu sois saint, il faut que tu sois fidèle, puis parce que tu es fidèle, tu deviens un saint. On va le voir un peu l'idée dans ce que je vais apporter. Le mot fidèle en Jésus-Christ, hein, c'est fidèle, c'est traduit par les dictionnaires bibliques, là. Fidèle, ça peut être le mot croyant, croire, ça veut dire, il y a ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est ceux qui sont fidèles, ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, ceux qui ont de l'assurance en Jésus-Christ, ceux qui ont de la fidélité en Jésus-Christ, ceux qui sont vrais en Jésus-Christ. Toutes ça, c'est des synonymes de ce mot-là. Fait que c'est envoyé aux saints et aux vrais. À ceux qui croient, à ceux qui sont fidèles. C'est tous des synonymes. Fait que sa lettre est envoyée à des gens qui sont fermes dans la foi. C'est pas du monde qui bouette ou du monde qui patauge un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur. C'est le synonyme de les synonymes, ça développe l'idée, c'est des loyales, des gens loyales. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es un saint, mais tu es aussi une personne, mais il faut que tu sois une personne loyale à Jésus. Juste, ça sous-entend ça. Des personnes qui se montrent elles-mêmes loyales dans les transactions d'affaires, c'est des fidèles. Ceux qui y exercent leur fonction, avec, puis ils les font droitement, c'est des gens fidèles. Mais nous, dans ce verset-là, ça démontre c'est des gens droits, des gens justes, des gens fidèles. Les croyants, les vrais qui sont sauvés, là, les saints, c'est des gens fidèles. Celui qui garde sa confiance promise, qui est digne de confiance, du monde digne de confiance, c'est des fidèles. Puis il y a d'autres idées comme facilement persuader des croyants, de ceux qui on peut faire confiance. Ceux qui ont confiance dans les promesses de Dieu, c'est toutes des idées qui peuvent se développer du mot fidèle. Fait que quand on dit que la lettre est envoyée aux saints, c'est du monde sanctifié, et aux fidèles, c'est du monde qui marche droite dans le Seigneur. C'est... Puis les chrétiens sont, on le sait par d'autres versets aussi, qu'on doit marcher droite pour qu'on soit déclaré fidèle. Les appelés, les élus et les fidèles. Les vaincrons aussi. C'est un autre verset qui est écrit qu'on va obtenir la victoire parce qu'on est appelé, qu'on a cru, qu'on a la foi, puis qu'on est fidèle. C'est important de viser d'être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Les fidèles sont ceux sur qui on peut compter, ceux qui persévèrent, qui sont un exemple. C'est ça que être fidèle. Puis nous, on est des fidèles parce qu'on marche encore dans le Seigneur tant d'années après, puis on est encore là. Puis il faut être fidèle jusqu'à la mort. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2, ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez-vous, là-dedans, il y a plusieurs idées qu'on pourra ressortir, mais l'important, c'est que les révélations de Dieu doivent être transmises aux gens qui sont fidèles pour que ces gens-là fidèles, vu qu'ils sont fidèles, ils vont les retransmettre aux autres. C'est ça qui est l'idée, que Dieu se charge des gens fidèles. C'est des gens qui sont capables de retransmettre, des gens que tu lui fais un message, puis tu as confiance qu'ils vont le transmettre. C'est aussi ça, parce qu'ils sont fidèles. Il faut être un fidèle pour être déclaré saint. Parce que si tu n'es pas fidèle à obéir au Seigneur, ça veut dire que tu pratiques du péché, donc tu n'es pas saint. Tu peux avoir le titre de saint, mais pas avoir la vie d'un saint. Fait qu'il faut être fidèle pour être un vrai saint. Puis il faut être saint pour être déclaré fidèle. Parce que si tu passes pas par Jésus pour demander le pardon de tes péchés, puis recevoir le Saint-Esprit, tu peux pas être déclaré un fidèle à Dieu. Parce qu'il faut premièrement que tu sois sauvé pour être déclaré fidèle. Ça veut dire qu'il faut que tu sois saint pour être déclaré fidèle, puis il faut que tu sois fidèle pour être déclaré saint. Voyez-vous, ça va ensemble. Tu peux pas dissocier un de l'autre. Un vrai saint de Dieu va être fidèle. Puis quelqu'un qui est fidèle à Dieu est un saint. La fidélité, c'est une caractéristique du Seigneur. Parce que dans 2 Thessaloniciens 3:3, ça dit « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira, puis il vous préservera du malin. » Le Seigneur, il est fidèle. Ça veut dire que c'est une caractéristique du Seigneur d'être fidèle. Fait que nous qui sommes ses disciples, nous sommes des saints, puis nous voulons être fidèles. Puis parce qu'on est fidèle, ça prouve qu'on a des caractéristiques du Seigneur. Puis ça, ces caractéristiques-là sont produites par le Saint-Esprit, parce que la fidélité, c'est écrit dans les fruits de l'Esprit. Fait que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une des choses que le Saint-Esprit veut produire en nous, c'est de nous rendre fidèles. Puis l'apôtre Paul, mais il appelait les gens d'Éphèse et les autres églises, il les appelait fidèles. Dans le dernier verset qu'on regarde pour ce soir, il dit dans sa salutation de l'apôtre Paul, mais il a prononcé son désir à ce que la bénédiction de Dieu soit sur tous ceux qui liront cette lettre. Paul, en Éphésiens chapitre 1, verset 2, dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ce que je remarque là-dedans, dans cette bénédiction-là, il dit pas « Je vous bénis ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit que la grâce et la paix du Seigneur, de Dieu, viennent sur vous. C'est comme si c'est une prière qui fait à Dieu de bénir ces gens-là. Ça fait une différence parce que c'est pas la bénédiction que je vais donner. Je te bénis dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui donnent comme si ça vient d'eux. Mais dans le Seigneur, faut apprendre que tout vient de Dieu. Fait que lui, dans sa, il cherchait la bénédiction des autres, puis il a pas dit, je vous bénis. Il a dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Faut, quand on dit que le Seigneur te bénisse, c'est ça la même idée. On demande la bénédiction du Seigneur sur la vie des autres. Puis c'est dans le même sens que l'apôtre Paul. Puis ça, on peut demander la bénédiction, on peut demander la grâce et la paix. Quand on bénit les gens, il y a plein de différentes bénédictions qu'on peut appeler à Dieu, que Dieu donne aux gens. Quand on parle de bénédiction, on parle de grâce et la paix. La paix, tous les chrétiens n'ont de besoin, mais ça peut être la joie du Seigneur, ça peut être c'est sa douceur, que ses bénédictions financières, que sa grâce, c'est que tu mérites rien, mais que Dieu te donne quand même ce que tu as besoin. On se comme même la prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, que Dieu te donne sa guérison. C'est toutes les formes de bénédiction qu'on peut donner aux gens, mais c'est pas nous qui la donne, on demande à Dieu de la donner. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des saints. Merci de nous avoir sanctifiés par le sang de Jésus. Merci aussi pour de faire de nous des gens fidèles. Seigneur, à cause de ce que tu nous as rendu capables par le sang de Jésus, par ton Saint-Esprit de devenir saints, tu nous as donné comme vision des choses, que tu as un héritage dans les lieux célestes que tu vas nous donner bientôt. Merci, Seigneur, pour ces grandioses promesses. Puis, Seigneur, on veut recevoir maintenant tes bénédictions. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous qui écoutons ta parole. On veut te remercier pour tout dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.